Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
11 février 2013, à la surprise générale, le pape Benoît XVI déclare en latin qu'il n'a plus la force de suivre le cours trop rapide des affaires de l'Église et qu'il renonce à sa charge. Aujourd'hui, le pape émérite mène une vie normale, il reçoit volontiers ses visiteurs et sa cohabitation avec son successeur se déroule sereinement. C'est bien sûr la une de ce magazine. Nous évoquerons également dans cette émission la mémoire d'un autre pape, Pie XI, surnommé le pacificateur. Il a réussi à apaiser les relations entre la papauté et le royaume italien et a lutté courageusement contre les totalitarismes du XXe siècle, fascisme, nazisme et communisme. Un vote qui préoccupe l'Europe et l'Église suisse, la Confédération helvétique rétablit des quotas d'immigration en provenance de l'Union européenne. C'est la libre circulation des travailleurs qui est menacée. Vous entendrez la réaction du porte-parole des évêques suisses. Il y a un an, le 11 février 2013, Benoît XVI provoquait la stupeur générale en annonçant sa décision de renoncer au ministère d'évêque de Rome, successeur de Saint-Pierre. Pendant 8 ans, il avait gouverné l'Église dans la tempête et les polémiques. Ce geste inédit dans l'histoire moderne déclencha aussitôt une onde de choc. Alors que les catholiques, émus et abasourdis, s'interrogeaient, les journalistes du monde entier affluaient vers Rome pour suivre au plus près cet événement et pour en mesurer la portée. Retour sur cette journée historique avec Hélène Détombe.
Ce devait être un consistoire ordinaire, ce fut une journée extraordinaire. Devant les cardinaux présents au Vatican pour la canonisation de trois bienheureux, Benoît XVI annonce officiellement en latin sa renonciation, qu'il a lui-même fixée 17 jours plus tard, au 28 février à 20h. Se déclarant conscient de la gravité de son acte, il en explique les raisons.
Après avoir examiné ma conscience devant Dieu à diverses reprises, je suis parvenu à la certitude que mes forces, en raison de l'avancement de mon âge, ne sont plus aptes à exercer adéquatement le ministère pétrinien.
Incrédulité et fébrilité dans la salle du consistoire, les cardinaux s'interrogent. Avons-nous bien entendu ? Les latinistes, interpellés discrètement par leurs confrères, confirment. C'est à ce moment précis que beaucoup comprennent qu'une page de l'histoire est en train de s'écrire. Parmi les quelques journalistes qui se trouvaient ce lundi 11 février en salle de presse du Saint-Siège, Jean-Louis de la Vessière, correspondant de l'agence France-Presse au Vatican.
Il y a eu cette nouvelle comme une bombe, tout d'un coup la salle de presse s'est remplie. Je dois dire que certains avaient les yeux un peu rouges d'émotion et on a eu du mal à décrypter, à un intérêt immense du monde entier. Moi-même, j'ai été interviewé par 5 médias à la sortie de la salle de presse alors que ça ne m'arrivait jamais. Et ensuite, il y a eu les premiers échos de certains dans la curie qui faisaient passer des messages comme si c'était pas évident et qu'il y avait une réaction un petit peu étonnée, déçue, préoccupée. De pas mal de cardinaux.
Traduites dans différentes langues, les paroles du pape feront très vite le tour du monde. Dans les médias, sur les réseaux sociaux, cet événement éclipse tous les autres. Les hommages se multiplient. Pour Flaminia Giovanelli, sous-secrétaire du Conseil pontifical Justice et Paix, nombreux sont ceux qui ont découvert le vrai visage de Benoît XVI après ce geste.
Je veux dire que les gens, ils ont quand même été très touchés par cet acte d'humilité. Ils ont quand même compris, je crois, plus la personne après cet acte. Ça venait aussi après toute cette période pendant laquelle il a souffert beaucoup. Et souvent, la presse n'a pas été avec lui, chaleureuse. Il n'était pas comme on le voyait dans les journaux. Je disais, mais quand on le rencontre, on voyait qu'il était vraiment attentif à la personne. Bon, la douceur, il était très affectueux. Et vraiment d'une grande spiritualité.
Dès sa première rencontre avec les fidèles, Benoît XVI s'était présenté comme un simple travailleur dans la vigne du Seigneur. C'est avec cette même humilité qu'il annonça le 28 février entamer la dernière étape de son pèlerinage sur cette terre. Depuis son monastère, au cœur des jardins du Vatican, nul doute qu'il continue aujourd'hui, comme il s'y est engagé, à prier avec amour pour le bien de l'Église et de l'humanité.
Selon son secrétaire, Mgr Georg Genswein, Benoît XVI ne regrette pas son geste. Le coup de tonnerre provoqué par sa renonciation s'est vite apaisé à la faveur d'un nouvel événement sans précédent, l'élection un mois et deux jours plus tard d'un jésuite énergique venu d'Amérique latine. Toujours aussi lucide et vigilant, théologien rigoureux et cohérent, Benoît XVI s'est effacé volontairement pour ne pas interférer dans le gouvernement de son successeur, dont les gestes et les formules ont conquis le grand public et suscité une nouvelle curiosité bienveillante à l'égard du Vatican et de l'Église. Olivier Bonnel.
Retiré dans un monastère au Vatican, Joseph Ratzinger a repris une vie normale et semble comme soulagé d'un poids. Il ne vit pas isolé, souligne le directeur du bureau de presse du Saint-Siège, et donne une impression de grande sérénité spirituelle. Selon le père Federico Lombardi, sa vie est faite de prières, de réflexions, de lectures, d'écriture au sens où il répond à la correspondance qu'il reçoit et mène une vie normale de rapport, y compris avec son successeur, le pape François. Pour l'Église aujourd'hui, Benoît XVI est comme un sage. Il a conservé son sourire qui nous invite à aller de l'avant avec confiance et espérance. Si l'image de Benoît XVI a presque disparu de l'espace public, les experts reconnaissent les aspects positifs de son pontificat, notamment son envergure intellectuelle, ses enseignements, les réformes entreprises et sa sévérité face au scandale de la pédophilie. Sa renonciation aurait pu apparaître comme un aveu d'échec dans un moment difficile pour l'Église. Un an plus tard, elle apparaît comme un geste prophétique, un acte politique accompli avec courage et profondeur spirituelle qui a permis à un homme venu du bout du monde de poursuivre avec vigueur les réformes nécessaires, de purifier et remettre à flot la barque de l'Église. Au-delà des différences de style et de langage, la révolution du pape François se situe dans le sillage du pontificat de Benoît XVI.
Et dans une interview à la télévision italienne, le cardinal Tarcisio Bertone, ancien secrétaire d'État du Saint-Siège, a quant à lui reconnu qu'il n'avait pas su protéger Benoît XVI. Autre anniversaire important pour la vie de l'Église, il y a 75 ans, le 10 février 1939, le pape Pie XI s'éteignait après 17 ans de pontificat. Il était âgé de 82 ans. C'est Pie XI qui a signé le 11 février 1929 le concordat entre le Saint-Siège et l'État italien, mieux connu sous le nom d'accord du Latran, dont l'une des conséquences a été la fondation de l'État de la Cité du Vatican. C'est Pie XI qui a fondé Radio Vatican, inauguré le 12 février 1931 par un message en latin à l'Église universelle. Cette station au cœur du nouvel État de la Cité du Vatican avait pour objectif de communiquer au-delà des frontières et de parler aux catholiques de tous les pays, notamment à ceux où les régimes totalitaires empêchaient l'Église catholique d'exercer librement sa mission. Tout au long de son pontificat, Pie XI n'a eu de cesse d'affirmer la liberté et l'indépendance de l'Église et d'exiger le respect de ses droits. Prêtre et pasteur, il a encouragé l'activité missionnaire de l'Église et consacré en 1926 six évêques chinois. Il a défendu les Églises orientales, développé la formation du clergé et mis en valeur l'art sacré. Auteur de 26 encycliques, il a dénoncé avec force les totalitarismes en Europe, mais aussi les persécutions antichrétiennes au Mexique. Sa dépouille repose dans la crypte de la basilique Saint-Pierre, aux côtés de ses prédécesseurs Benoît XV et Pie X. Ce 75e anniversaire est donc l'occasion de rendre hommage au fondateur de Radio Vatican et de revenir sur les temps forts de son pontificat. Audrey Radondi a interrogé Bernard Lecomte, journaliste et écrivain. Il est spécialiste de la papauté contemporaine.
Des accords du Latran, ces accords qui, en 1929, mettent fin à la question romaine. C'est Pie XI qui a, en quelque sorte, inventé la cité du Vatican. Et cet État du Vatican qui donne donc à l'Église catholique un territoire qui lui assure une identité juridique internationale. Et puis, dans les années 30, rappelons-nous, les trois encycliques très importante. La première, c'est en 1931. Il condamne le fascisme. C'est la fameuse encyclique « Non abbiamo bisogno ». En 1937, les deux grandes encycliques, les plus politiques du siècle probablement, « Divini Redemptoris », où il condamne le communisme, et la fameuse encyclique en allemand « Mit brennender Sorge » contre le nazisme. C'est ce qui restera certainement le plus de ce pape, dont on retiendra bien entendu l'image d'un pape bibliophile qui avait dirigé la grande bibliothèque de Milan et puis la Vaticane. Et puis on retiendra aussi lui, bien sûr, qu'il a fondé Radio Vatican. C'est l'homme de la modernité dans l'Église aussi, celui qui a eu cette audace de lancer le Vatican sur les ondes du monde. Voilà, si vous voulez, ce pape très moderne, très politique, qui a fait face à une époque extrêmement compliquée.
Et qu'est-ce qu'on peut dire alors de sa mort ?
C'est quelque chose de très émouvant et de très contesté, presque romanesque. très émouvant parce que, d'abord, ce pape-là, il est presque mort deux fois. Il était à deux doigts de la mort en 1936, au point que, quand il a retrouvé la santé, tout le monde a parlé d'un miracle. Et puis, en 1939, il est en train de préparer, justement, le 10e anniversaire des accords de Latran. Il y a une cérémonie qui est prévue. Il sait qu'il aura probablement en face de lui Mussolini. Et il met toutes ses forces à écrire un discours très dur à l'égard du fascisme et à l'égard de Mussolini. Et puis c'est en écrivant ce discours qu'il s'effondre. Alors cette mort-là, elle a donné lieu à des rumeurs. Pourquoi des rumeurs? Parce que un des grands cardinaux de la curie future, le cardinal Tisserand, va dire que eh bien, c'est Mussolini qui a assassiné le pape en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est plus exactement un des médecins qui pouvait circuler dans le palais apostolique, qui était le père de la maîtresse de Mussolini et qui aurait empoisonné le pape Pie XI sur ordre de Mussolini. Alors il faut être clair, jamais aucun historien, aucun médecin, personne n'a jamais pu corroborer cette thèse. Mais enfin, comme elle vient d'un grand personnage de l'Église, le cardinal Tisserand, on ne peut pas l'écarter d'un revers comme ça et il faut tenir compte de cette rumeur, de cette thèse en tout cas, quand on écrit l'histoire de Pie XI.
Et pourquoi dit-on plus généralement qu'il était mal aimé?
C'est-à-dire qu'il avait son caractère. Et on a toujours dit que si jamais son dossier n'avait été constitué pour, après tout, en faire un bienheureux, voire un saint, c'est à cause de son caractère, parfois irascible, parfois coléreux. C'est difficile à dire. Ce pape très politique n'avait pas que des amis. Vous pensez bien qu'à l'époque, on est dans l'entre-deux-guerres. Les intérêts des uns et des autres sont complexes, les pressions sont complexes. Donc c'est un pape qui a été très chahuté dans une époque où on contestait beaucoup. Il est vrai qu'au XXe siècle, Pie X a été canonisé. On s'approche là de la canonisation de Jean XXIII et de Jean-Paul II. On a toujours évoqué un jour la béatification et peut-être la canonisation un jour de Pie XII. Jamais personne n'a évoqué le cas de Pie XI, en fait, canonisation. C'est un cas assez unique dans l'histoire des papes modernes. Pie XI était probablement un grand pape, mais peut-être n'a-t-il pas été considéré suffisamment comme un saint homme.
C'était Bernard Lecomte, spécialiste de la papauté contemporaine. Le 11 février, mémoire liturgique de Notre-Dame de Lourdes, l'Église célèbre tous les ans depuis 1992 la Journée mondiale du malade. Des célébrations sont prévues dans la cité mariale à Lourdes, mais aussi dans d'autres villes du monde. Dimanche, à l'Angélus, le Saint-Père a remercié les personnels de santé qui accomplissent un travail précieux. Jean-Baptiste Cocagne.
L'accompagnement des personnes souffrantes est une priorité évangélique. Sous l'inspiration de Jean-Paul II, cette journée rappelle la dignité de toute personne, malade ou âgée. Elle est dédiée autant aux malades qu'aux personnes qui les assistent au quotidien, parents, amis ou personnel médical. Son objectif est d'encourager les bien portants à soutenir les personnes souffrantes et à être attentifs à leurs besoins, à leur donner de leur temps pour qu'elles ne se sentent pas mises à l'écart. Cela concourt à leur apaisement et parfois même à leur guérison. La joie, la compassion, l'affection peuvent avoir des effets thérapeutiques. Une parole exprimée avec simplicité, un geste posé avec sincérité permettront à des personnes qui souffrent de retrouver goût à leur vie. Cette année, la journée a pour thème foi et charité. Nous devons nous aussi donner notre vie pour nos frères. Le pape François rappelle dans son message que l'Église reconnaît dans les malades une présence spéciale du Christ souffrant. Le Fils de Dieu fait homme n'a pas supprimé la maladie et la souffrance de l'expérience humaine, écrit-il, mais en les assumant lui-même, il les a transformés et leur a donné une nouvelle dimension. Dimanche, à l'Angélus, le Saint-Père a appelé les familles à ne pas avoir peur de la fragilité de leurs proches frappés par la maladie.
Pas de communion pour les divorcés remariés, mais peut-être une femme à la tête d'un nouveau dicaster de la curie romaine. C'est l'un des membres du groupe des cardinaux conseillers du pape François qui le laisse entendre dans une interview au Boston Globe. Le cardinal O'Malley, archevêque de Boston, a ainsi averti qu'il ne fallait pas s'attendre non plus à des virages en matière d'avortement, de contraception ou d'homosexualité. Le successeur de Benoît XVI, a-t-il dit, a assoupli le ton mais ne changera pas de position en matière de doctrine. Beaucoup seront déçus mais l'Église doit rester fidèle à l'Évangile et à l'enseignement du Christ. En revanche, des nouveautés sont possibles sur deux fronts importants. Les femmes d'abord. Le Saint-Père pourrait placer une femme à la tête du Conseil pour les laïcs qui pourrait lui-même être transformée. Deuxième front, les déclarations de nullité des mariages. Le pape François souhaiterait assouplir les procédures. Les demandes pourraient par exemple être gérées au niveau national sans qu'il faille envoyer tous les dossiers à Rome. C'est un désaveu pour la politique du gouvernement helvétique et c'est une mauvaise nouvelle pour l'Europe. Les Suisses ont voté dimanche contre une immigration de masse. À l'initiative de l'UDC, la droite populiste qui était déjà à l'origine de l'interdiction des minarets et du renvoi des criminels étrangers, les Suisses se sont prononcés à une très courte majorité, 50,3%, pour une limitation de l'arrivée d'étrangers dans le pays. L'Église catholique est déçue de ce résultat. Elle avait appelé à rejeter l'initiative de l'UDC, craignant de sévères restrictions du droit d'asile pour les étrangers. Nous avons recueilli la réaction de Simon Spengler, porte-parole des évêques suisses.
Alors nous sommes déçus de cette votation, de ces résultats. Il faut distinguer deux niveaux. Un côté, il y a les conséquences politiques et économiques, mais ça, ce n'est pas le terrain de l'Église. Pour nous, le grand souci, c'est l'atmosphère contre les étrangers ici, dans ce pays. Déjà, plusieurs fois, une force politique, les nationalistes, les étroites, ils ont gagné des votations avec la peur des gens, avec la peur des gens en face des étrangers. Et ça, c'est pas bon pour notre climat de la société suisse.
Ce résultat est-il surprenant, selon vous?
Moi, je n'étais pas très étonné de ces résultats. Mais il y a une contradiction, parce que dans les grandes villes où il y a beaucoup d'étrangers, les gens ont voté contre cette initiative. Et au pays, dans les cantons plus ruraux, ils ont complètement voté très fortement pour l'initiative contre les étrangers. Mais là, il y a peu des étrangers. C'est vraiment une question psychologique pour la population suisse.
À la lumière de ce vote, est-ce que l'Église catholique suisse prévoit une nouvelle prise de parole sur ce sujet?
Ça dépend maintenant. Il faut voir les conséquences. Pour le moment, personne ne connaît les conséquences. Mais s'il y a des solutions politiques avec une forte désintégration des étrangers qui ne laissent pas vivre les employeurs en Suisse, les employeurs étrangers avec leurs familles, là, je pense, les évêques ou l'Église catholique va se prononcer. Parce que les droits des familles sont fondamentaux aussi pour les étrangers, pas seulement pour les Suisses.
L'Église redoute-t-elle les conséquences politiques et économiques de ce résultat?
Et bien sûr. La commission des évêques, justice et paix, elle a clairement dit il ne faut pas moins d'Europe, il faut plus d'Europe, aussi en Suisse.
Simon Spengler, porte-parole des évêques suisses, interrogé par Manuela à Fidji. Selon le ministre français des Affaires étrangères Laurent Fabius, l'Union européenne va devoir réviser ses relations avec la Suisse. En Centrafrique, les responsables religieux demandent une nouvelle fois que la religion ne soit pas entraînée dans un conflit qui est purement politique. L'archevêque catholique de Bangui, le président des églises évangéliques et le président de la communauté musulmane ont convoqué une conférence de presse pour dénoncer les hommes politiques qui veulent imposer une guerre religieuse à un peuple qui a toujours vécu en harmonie. Les responsables religieux ont en outre déploré les interférences étrangères qui ont contribué à entraîner le pays dans la crise la plus grave de son histoire. Ils ont également invité à laisser agir le Parlement provisoire, les forces vives de la nation et la communauté internationale. Selon eux, une solution sera bientôt trouvée. La communauté catholique Sant'Egidio encourage le dialogue entre le gouvernement colombien et la guérilla des FARC. Intitulé « La paix tout de suite », l'appel lancé par cette organisation a été signé par plusieurs personnalités internationales, dont deux prix Nobel. Les négociations de paix entre le gouvernement colombien et les FARC ont démarré en octobre 2012 à Cuba. Selon la communauté catholique romaine, la paix est aujourd'hui possible malgré les différends qui subsistent. Il y a quelques jours, les parties sont parvenues à un accord sur la participation des FARC à la vie politique. Un accord partiel a également été conclu sur le développement rural. Les deux parties négocient à présent le troisième des cinq points de leur ordre du jour, la fin du trafic de drogue. Resteront ensuite à discuter des dédommagements aux victimes du conflit, le plus ancien d'Amérique latine, et de l'arrêt effectif des hostilités. Vendredi, la guérilla colombienne s'est déclarée prête à une trêve bilatérale avec le gouvernement à l'occasion des élections législatives du 9 mars. Au mois de décembre, les FARC avaient déjà décrété de manière unilatérale un cessez-le-feu pour les fêtes de fin d'année. l'année. Selon la communauté Santé Gidio, il faut saisir cette opportunité pour mettre fin à un conflit inutile et meurtrier qui dure depuis un demi-siècle. Des choix sages et clairvoyants s'imposent. Les signataires de l'appel sont disposés à soutenir les négociateurs. Le président de la communauté de Santé Gidio donnera une conférence de presse mercredi à Rome. C'est la fin de cette émission, mais je vous invite à nous retrouver également sur Internet, radiovaticana.va, ainsi que sur Facebook, Radio Vatican. En français, merci de votre fidélité.